Deux semaines après sa naissance, on apporta le fils de Pilar Ternera chez ses grands-parents. Ursula l'accepta bien à contre-cœur, cédant une fois de plus à l'obstination de son mari qui ne pouvait se faire à l'idée qu'un rejeton de son sang restât abandonné à la dérive, mais elle fit admettre qu'on cacherait à l'enfant sa véritable identité. Bien qu'il reçût le nom de José Arcadio, ils finirent par l'appeler plus simplement Arcadio, pour éviter toute confusion. À cette époque, régnait une activité si intense au village, et la maison était en proie à un tel remue-ménage que le soin d'élever les enfants se trouva relégué au second plan. On les confia à Visitación, une indienne guajira qui était venue au village accompagnée d'un frère, fuyant une peste de l'insomnie qui frappait sa tribu depuis plusieurs années. Ils étaient tous deux si obéissants et si serviables qu'Ursula les prit à son service pour l'aider aux travaux domestiques. C'est ainsi qu'Arcadio et Amaranta surent parler l'idiome des Indiens guajiros avant le castillan et apprirent à boire du bouillon de lézard et à manger des œufs d'araignée sans qu'Ursula se doutât de rien, trop occupée elle-même par un commerce prometteur de petits animaux en caramel. Macondo était métamorphosé. Les gens qui avaient escorté Ursula révélèrent la bonne qualité de son sol et sa position privilégiée par rapport au marigot, de sorte que le hameau nu et sauvage eut vite fait de se changer en un village plein d'activités, avec des magasins, des ateliers d'artisans et une route où le trafic devint incessant, par laquelle arrivèrent les premiers Arabes chaussés de babouches, des anneaux aux oreilles, troquant des colliers de verroterie contre des perroquets. José Arcadio Buendía ne connut pas un instant de répit. Fasciné par une réalité immédiate qui lui parut dès lors plus fantastique que le vaste univers de sa propre imagination, il se désintéressa complètement du laboratoire d'alchimie, laissa dormir la matière exténuée par de longs mois de manipulation et redevint l'homme entreprenant des débuts, celui qui décidait du tracé des rues et de la disposition des nouvelles maisons afin que nul ne profitât davantage dont les autres n'eussent pas bénéficié également. Il se tailla une telle autorité parmi les nouveaux arrivants qu'il ne se jeta de fondation ni ne se dressa de clôture sans que son avis fût pris, et il fut décidé que ce serait lui qui présiderait à la distribution des terres. Lorsque revinrent les gitans saltimbanques, avec leur foire ambulante transformée à présent en un énorme établissement de jeux de hasard, ils furent accueillis avec allégresse, dans la mesure où l'on pensait que José Arcadio s'en revenait avec eux. Mais José Arcadio n'était pas de retour, et il ne ramenait pas l'homme vipère qui, d'après Ursula, était le seul à pouvoir donner des nouvelles de leur fils. Si bien qu'on n'autorisa pas les gitans à s'installer au village, non plus qu'à y remettre jamais les pieds à l'avenir, car on les considéra comme des ambassadeurs de la concupiscence et du pervertissement. José Arcadio Buendía, cependant, déclara formellement que l'ancienne tribu de Melquiades, qui avait tant contribué à l'épanouissement du village avec son savoir millénaire et ses fabuleuses inventions, trouverait toujours portes ouvertes. Mais la tribu de Melquiades, à ce que racontèrent les gens du voyage, avait été gommée de la face de la terre pour avoir outrepassé les limites de la connaissance humaine. Échappant du moins pour un moment au méandre de son imagination, José Arcadio Buendía fit rapidement régner l'ordre et le labeur. Et la seule fantaisie qu'on se permit fut la libération des oiseaux, qui depuis la fondation de Macondo ensoleillaient chaque journée avec leurs airs de flûte, et leur remplacement par des horloges musicales dans chaque maison. C'étaient de précieuses horloges en bois ouvragées que les Arabes échangeaient contre des perroquets et que José Arcadio Buendía synchronisa avec tant de précision que toutes les demi-heures, l'ensemble du village s'égayait aux accords d'une même mélodie qui allait se développant jusqu'au point culminant d'un midi exact et unanime avec la valse complète. Ce fut encore José Arcadio Buendía qui, vers cette époque, décida que les rues du village seraient plantées d'amandiers au lieu des acacias et qui découvrit sans jamais la révéler la manière de rendre ces arbres éternels. Bien des années plus tard, lorsque Macondo ne fut plus que baraquement en bois au toit de zinc, dans les rues les plus anciennes subsistaient encore les amandiers, tout mutilés et couverts de poussière, mais personne ne savait plus qui les avait semés. Tandis que son père mettait de l'ordre dans le village et que sa mère consolidait le patrimoine familial, avec sa merveilleuse industrie de coques et de poissons en sucre qui, deux fois par jour, sortait de la maison, embrochée sur des baguettes d'arbres à capoque, Aureliano passait de longues heures dans le laboratoire abandonné, s'initiant par pur plaisir de la recherche à l'art de l'orfèvrerie. Il était tellement monté en graines que les vêtements que lui avait laissés son frère ne lui allèrent bientôt plus, et qu'il se mit à emprunter ceux de son père. Mais Meditación dut lui faire des plis et des remplis à ses chemises et à ses pantalons, car Aureliano n'avait pas hérité la corpulence des autres. L'adolescence avait fait perdre toute douceur à sa voix et l'avait rendue taciturne et irrémédiablement solitaire. Mais en revanche, lui avait redonné cet intense éclat qu'il avait dans les yeux à sa naissance. Tout à ses expériences d'orfèvrerie, c'était à peine s'il quittait le laboratoire pour manger. Préoccupé par le caractère renfermé de son fils, José Arcadio Buendía lui remit les clés de la maison et un peu d'argent, pensant que, peut-être, c'était d'une femme qu'il avait besoin. Mais Aureliano dépensa son argent en acide chlorhydrique pour préparer l'eau régale et, pour les embellir, plongea les clés dans un bain d'or. Ses extravagances étaient à peine comparables à celles d'Arcadio et d'Amaranta, qui avaient déjà commencé à faire leurs dents et marchaient encore en s'accrochant toute la sainte journée au poncho des Indiens, fermement décidés à ne pas parler espagnol, mais la langue des guajiros. « Tu n'as pas à te plaindre, » disait Ursula à son mari. « Les enfants héritent les folies de leurs parents. » Et tandis qu'elle se plaignait de sa mauvaise fortune, convaincue que les excentricités de ses enfants ne le cédaient en ignominie à une queue de cochon, Aureliano lui décocha un regard qui la plongea dans l'incertitude. « Quelqu'un va venir, » lui dit-il. Comme toujours, lorsqu'il émettait une de ses prophéties, Ursula tenta de le désarmer avec sa logique de femme d'intérieur. C'était tout naturel que quelqu'un arrivât. Tous les jours, des dizaines d'étrangers passaient par Macondo, sans susciter d'inquiétude et sans se faire annoncer de quelque secrète manière. Cependant, par-delà toute logique, Aureliano paraissait sûr de son présage. « J'ignore qui ce sera, » fit-il en insistant. « Mais qui que ce soit, il est déjà en route. » Le dimanche suivant arriva en effet Rebecca. Elle n'avait pas dépassé 11 ans. Elle avait effectué le pénible voyage depuis Manaoré avec des trafiquants de fourrures qui avaient pour mission de l'acheminer, ainsi qu'une lettre, jusqu'à la maison de José Arcadio Buendía, mais qui ne purent expliquer avec précision quelle était la personne qui leur avait demandé ce service. Pour tout bagage, elle avait une mallette d'effet personnel, un petit fauteuil à bascule en bois décoré à la main de petites fleurs multicolores et une sorte de sacoche en toile goudronnée qui faisait un bruit continuel de cloc-cloc-cloc, dans lequel elle transportait les ossements de ses parents. La lettre adressée à José Arcadio Buendía était écrite en termes très affectueux par quelqu'un qui continuait à l'aimer beaucoup, en dépit du temps écoulé et de la distance, et qui se sentait contraint, mu par la plus élémentaire humanité, de lui envoyer charitablement cette pauvre orpheline abandonnée à elle-même, cousine au second degré d'Ursula, et par conséquent, parente également de José Arcadio Buendía, bien que d'une manière plus lointaine, car c'était la fille de cet inoubliable ami qu'était Nicanor Ulloa et de sa très digne épouse Rebecca Montiel, que Dieu rappela dans le royaume des cieux, dont les restes se trouvaient joints à la présente, afin que sépulture chrétienne leur fût donnée. Tous les noms mentionnés, ainsi que la signature de la lettre, étaient parfaitement lisibles. Mais ni José Arcadio Buendía, ni Ursula ne se rappelaient avoir eu les parents ainsi nommés. Et ni l'un ni l'autre ne connaissaient personne du nom de l'expéditeur, et encore moins la lointaine ville de Manaoré. Il fut impossible d'arracher aucun renseignement supplémentaire à la petite fille. Depuis son arrivée, elle restait assise à sucer son pouce dans son fauteuil à bascule et à observer tout un chacun de ses grands yeux épouvantés, sans paraître comprendre un mot de ce qu'on lui demandait. Elle portait des vêtements en diagonale, teint en noir, râpé par l'usure et des bottines vernies tout écaillées. Ses cheveux étaient retenus derrière les oreilles par des bouffettes de ruban noir. À son cou pendait un scapulaire aux dessins effacés à cause de la sueur, et elle avait au poignet droit, monté sur cuivre, un croc d'animal carnivore qui devait servir d'amulette contre le mauvais œil. Son teint verdâtre, son ventre ballonné, à la peau tendue comme celle d'un tambour, était signe d'une mauvaise santé et témoignait d'une faim plus vieille qu'elle-même. Mais lorsqu'on lui proposa à manger, elle resta avec son assiette sur les genoux, sans vouloir y toucher. On en arriva même à croire qu'elle était sourde et muette, jusqu'au moment où les Indiens lui eurent demandé dans leur langue si elle désirait un peu d'eau. Ses yeux reprirent vie, comme si elle venait de retrouver des gens de connaissance, et elle fit oui de la tête. Ils la gardèrent parce qu'il n'y avait pas d'autre issue. Ils décidèrent de l'appeler Rebecca, qui était, d'après la lettre, le prénom de sa propre mère, Et parce qu'Aureliano eut la patience d'épeler devant elle tous les saints du calendrier sans obtenir de réaction de sa part à aucun prénom. Comme en ce temps-là, il n'existait pas de cimetière à Macondo, puisque personne encore n'y était mort, ils conservèrent la sacoche remplie d'ossements en attendant de trouver un lieu convenable où les ensevelir. Et longtemps encore, les parents de Rebecca encombrèrent la maison, jamais à la même place, avec leurs caquettements et leurs gloussements de poule couveuse. Il fallut beaucoup de temps pour que Rebecca finît par s'incorporer à la vie familiale. Elle restait assise dans le fauteuil à bascule, à sucer son pouce dans le coin le plus reculé de la maison. Rien n'éveillait son intérêt, excepté la musique des horloges, toutes les demi-heures, qu'elle cherchait avec des yeux inquiets comme si elle eût espéré l'apercevoir quelque part en l'air. Pendant plusieurs jours, on ne réussit pas à la faire manger. Personne ne comprenait comment elle n'était pas déjà morte de faim quand les indigènes, auxquels rien n'échappait parce qu'ils parcouraient sans arrêt la maison à pas feutrés, découvrirent que Rebecca ne se plaisait à manger que la terre humide du patio et les plaques de chaux qu'elle détachait des murs avec les ongles. Il était évident que ses parents, ou quiconque l'avait élevée, avaient dû la réprimander pour cette mauvaise habitude. Car elle ne s'y livrait qu'en cachette et consciente de mal agir, s'évertuant à dissimuler ses rations pour les dévorer à l'insu de tout le monde. Dès lors, ils la soumirent à une surveillance de tous les instants. Ils répandirent du fiel de vache dans le patio et badigeonnèrent les murs de sauce au poivre, croyant avec de semblables méthodes venir à bout de son vice pernicieux. Mais elle fit preuve de tant d'astuces et d'adresses pour chercher à se procurer de la terre qu'Ursula dut avoir recours à des moyens plus drastiques. Elle versait du jus d'orange sur de la rhubarbe dans une casserole qu'elle laissait à la belle étoile toute la nuit et, le lendemain, lui administrait la potion à jeun. Bien que personne ne lui eût dit qu'un tel remède était spécialement destiné à guérir de leurs vices les mangeurs de terre, elle pensait que n'importe quelle substance amère dans un estomac vide ne manquerait pas de faire réagir le foie. Rebecca était si rebelle et si forte, malgré son rachitisme, qu'on devait la maîtriser et la terrasser comme un jeune veau pour lui faire avaler son médicament. Et c'est à peine si l'on pouvait réprimer ses trépignements et supporter les hiéroglyphes embrouillés qu'elle vociférait entre deux morsures ou deux crachats et qui, selon les indigènes scandalisés, représentaient les pires obscénités qui se pouvaient concevoir en leur langue. Lorsqu'Ursula la prit, elle compléta son traitement avec des coups de fouet. On ne put jamais établir si ce fut la rhubarbe ou les raclées qui produisirent de l'effet, ou la combinaison des deux, mais il est certain qu'au bout de quelques semaines, Rebecca commença à donner des signes de guérison. Elle prit part aux jeux d'Arcadio et d'Amaranta, qui l'accueillirent comme une grande sœur, et mangea avec appétit en se servant convenablement de son couvert. Bientôt, il apparut qu'elle parlait castillan aussi couramment que la langue des Indiens, qu'elle était remarquablement adroite de ses mains, et qu'elle chantait la valse des horloges avec de très jolies paroles qu'elle avait elle-même composées. Chacun ne tarda plus à la considérer comme faisant partie de la famille. Elle témoignait à Ursula une affection que ne lui montrèrent jamais ses propres enfants. Elle appelait Amaranta petite sœur, Arcadio petit frère. Elle donnait du mon oncle à Aureliano et du grand-père à José Arcadio Buendía. Ainsi finit-elle par mériter autant que les autres le nom de Rebecca Buendía, le seul qu'elle reçut jamais et qu'elle porta dignement jusqu'à sa mort. Une nuit, vers cette époque où Rebecca guérit de son vice de mangeuse de terre et fut amenée à partager la chambre des autres enfants, l'Indienne qui dormait avec eux se réveilla par hasard et entendit un curieux bruit de va-et-vient dans un coin. Elle se mit sur son séant, alarmée, croyant qu'il était entré quelque bête dans la chambre. Quand elle découvrit Rebecca dans son fauteuil à bascule, suçant son pouce et les yeux allumés comme ceux d'un chat dans l'obscurité. Pétrifiée de terreur, effondrée par cette fatalité qui la poursuivait, Meditation reconnut dans les yeux de Rebecca les symptômes de l'épidémie qui les avait contraints, son frère et elle, à s'exiler pour toujours d'un royaume millénaire où ils avaient titre de prince. C'était la peste de l'insomnie. Au point du jour, on ne trouva plus l'Indien Kataoré à la maison. Sa sœur resta. Son cœur fataliste lui disait que, de toute façon, le mortel fléau la poursuivait jusque dans le dernier recoin de la terre. Personne ne comprit l'inquiétude de Meditation. « Si l'on ne peut plus dormir, tant mieux !» disait José Arcadio Buendía avec bonne humeur. « Pour nous, la vie n'en sera que plus féconde. » Mais l'Indienne leur expliqua que le plus à craindre dans cette maladie de l'insomnie, ce n'était pas l'impossibilité de trouver le sommeil, car le corps ne ressentait aucune fatigue. mais son évolution inexorable jusqu'à cette manifestation plus critique, la perte de mémoire. Elle voulait dire par là qu'au fur et à mesure que le malade s'habituait à son état de veille, commençait à s'effacer de son esprit les souvenirs d'enfance, puis le nom et la notion de chaque chose, et pour finir, l'identité des gens, et même la conscience de sa propre existence, jusqu'à sombrer dans une espèce d'idiotie sans passé. José Arcadio Buendía, mort de rire, considéra qu'il s'agissait ni plus ni moins d'une de ces nombreuses maladies inventées par la superstition des indigènes. Mais Ursula, en cas, prit la précaution de séparer Rebecca des autres enfants. Après plusieurs semaines, alors que la frayeur de Visitación paraissait calmée, José Arcadio Buendía se mit une nuit à se tourner et à se retourner dans son lit sans pouvoir s'assoupir. Ursula, réveillée elle aussi, lui demanda ce qu'il avait et il lui répondit « Je repense encore à Prudencio Aguilar ». Ils ne purent fermer l'œil une minute, mais le lendemain ils se sentirent si frais et dispos qu'ils oublièrent leur mauvaise nuit. À l'heure du déjeuner, Aureliano raconta comment il était étonné de se sentir parfaitement en forme après avoir passé toute la nuit au laboratoire à dorer une broche qu'il pensait offrir à Ursula pour son anniversaire. Personne ne s'inquiéta vraiment jusqu'au troisième jour, où, ne se sentant aucune envie de dormir au moment de se coucher, ils réfléchirent qu'ils avaient pu rester plus de 50 heures sans sommeil. Les enfants aussi sont restés éveillés, fit remarquer l'Indienne avec son fatalisme inébranlable. Quand elle entre quelque part, personne n'échappe à la peste.